Tu lis ou tu n'arrives pas?
Si, j'arrive.
Sans colorant et sans conservateur.
Et toi, tu crois que c'est vrai quand ils te disent ça?
Oui.
Et qui sait faire la molokhia dans la famille, là?
Mireille, tout le monde.
Non, mais là, dans la famille française.
Française, personne.
Donc c'est bien que j'apprenne à la faire.
Est-ce que nous avons une famille française, non?
Bah, nous, on est quoi?
Ah, bah, nous sommes égyptiens quand même. Hein.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission où l'on parle de ce qu'il y a dans la marmite et du lien qui se crée autour de la marmite. Si je vous dis goût, plaisir de manger et de partager, d'où viennent-ils? Vous demandez aux cuisiniers, aux chefs, hommes et femmes confondus, dans la réponse il y aura très, très souvent l'image d'une mère, d'une grand-mère et tout de suite le souvenir de ce goût que l'on n'arrive jamais vraiment à retrouver, car tellement souvent imprégné du moment passé à cuisiner, à partager autour de la table, le goût de ce souvenir-là, des discussions, les mains dans la pâte, du sérieux sans en avoir l'air, du temps savouré ensemble. Mais je parle, alors que nous sommes aujourd'hui, pas n'importe où, nous sommes dans la cuisine de Jonas Pariente. Vous êtes le réalisateur et producteur de Grand Mass Project, c'est une web-série collaborative, c'est des films qui sont assez courts.
Oui, hein, 8 minutes.
Si on doit parler assez simplement, des grands-mères qui sont en cuisine, filmées par leurs petits-enfants en train de réaliser une recette. D'où elle vient cette idée?
Il y a plusieurs origines en fait. À la base de la base, je cherchais à faire un film sur mes deux grands-mères, ma grand-mère égyptienne et ma grand-mère polonaise. Donc ça c'était il y a 15 ans maintenant, avec l'idée de raconter leur histoire à elles en tant que femmes, l'histoire de ma famille, autour de ce qu'elles me transmettent en cuisine. Donc de la cuisine de l'Est, d'Europe de l'Est et de la cuisine méditerranéenne.
Quand vous dites une grand-mère polonaise et une grand-mère égyptienne d'origine, absolument. Leur parcours, c'était quoi par exemple votre grand-mère
alors,
polonaise?
Alors ma grand-mère polonaise, elle est née en 1916 à Varsovie et elle est arrivée en France après la Seconde Guerre mondiale. Et ma grand-mère égyptienne est née en 1933 au Caire et elle est partie d'Égypte, elle, en 1956 au moment de la crise du canal de Suez. Donc en gros, toutes les deux étaient des femmes, des mamans, des jeunes femmes, jeunes mamans, qui avaient déjà vécu une première vie dans leur pays d'origine, qui ont toutes les deux eu à traverser une crise, je veux dire un moment un peu triste de l'histoire.
Puis un moment d'exil pour l'une et pour l'autre.
Et un moment d'exil, et les deux ont trouvé refuge à Paris. Et chacune à leur manière, elles ont pris pied ici, fait grandir leur famille ici. Elles se sont plus ou moins adaptées l'une et l'autre à la culture française. Mais donc c'était vraiment des immigrés, quoi. Avec chacune un bon accent bien, bien remarquable. Et puis elles arrivaient, je veux dire... Elles ont vraiment transposé leur vie de là-bas, ici. Du coup, c'était très, très... je veux dire, à la fois, les contrastes entre elles étaient assez saisissants. Et puis, comme tout ça, ce drôle de patchwork constituait ma famille, j'avais envie d'explorer ça. En fait, elles avaient à peu près le même amour grand-maternel, on va dire. La volonté de s'occuper de nous chérir, de nous faire à manger. En fait, les premiers souvenirs de nourriture, je pense, c'est des souvenirs de petit-déjeuner, quoi, ou de goûter. Mais déjà là, il y avait des petites différences. Ma grand-mère, depuis très longtemps, enfin depuis que je suis petit, elle fait des croissants à la feta, par exemple. Donc il y a ce truc de sucré-salé, de ces saveurs qu'on retrouve en Grèce et tout, au Liban. Et ma grand-mère polonaise, elle faisait pain et beurre, quoi. Plus basique. Et en fait, globalement, la cuisine polonaise, on est sur un truc plus essentiel, plus primaire. Après, bien sûr, c'est les langues qu'elle parle, enfin l'arrière-son, parce qu'en fait, avec leurs petits-enfants, elle parlait toujours en français. Mm-hmm. Mais avec mes grands-pères, elle parlait soit en yiddish et polonais l'une, et l'autre en arabe, souvent. Et du coup, c'est l'univers sonore qui différait, quoi.
Parce qu'elle parlait des langues différentes aussi. Vous avez dit yiddish et polonais.
Ouais.
Votre grand-mère qui a grandi au Caire, elle parlait donc.
Elle parlait plein de langues en fait, parce qu'à l'époque, le Caire, enfin l'Égypte de la fin de la période coloniale, apparemment était très cosmopolite et beaucoup de communautés vivaient côte à côte et en fait s'influençaient les unes les autres. Donc elle a des notions de grec, des notions d'italien. Elle parle bien anglais, elle parle bien français, elle parle arabe. Je pense qu'elle doit même baragouiner de l'espagnol, au passage.
Votre grand-mère Nano, que vous appelez pour la molokhia, dans sa manière de dire qu'elle aime, dans sa manière de transmettre, est-ce que sa cuisine a une part importante dans sa manière de communiquer et pour votre grand-mère polonaise aussi?
Alors, pour ma grand-mère paternelle, donc la grand-mère égyptienne, c'est sûr et certain que oui. Même si c'est une femme affectueuse, vraiment, son mode de communication principal est la cuisine. Et son plus grand témoignage d'amour qui nous est adressé à nous, ses petits-enfants, c'est clairement sa cuisine, quoi. C'est-à-dire que la façon, ce qu'elle y met, la quantité qu'elle fait, sa volonté de nous porter, en fait, avec sa cuisine, quoi. Donc elle, c'est très, très... Je veux dire, c'est vraiment...
flagrant.
Flagrant, et c'est presque... Ça ne prend qu'une seule façon, en fait. de se développer, c'est la cuisine. Et ma grand-mère maternelle, c'était un peu plus varié parce qu'elle aimait bien nous faire à manger, mais c'était, elle avait d'autres. Elle vivait pas de. Enfin, par exemple, ma grand-mère égyptienne, elle travaille, elle a jamais travaillé. Donc c'était son, aussi son seul savoir-faire. Alors que ma grand-mère polonaise, elle a travaillé comme couturière, elle avait d'autres chats à fouetter aussi, quoi. Donc elle avait d'autres choses que la cuisine à partager avec nous.
Allô ?
Ouais, Nana, c'est Jo.
Oui, chérie.
Ça va ?
Oui, oui, très bien, ouais.
Je voulais savoir si je pouvais venir la semaine prochaine pour filmer la Molokhaya.
Oui.
En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est filmer pour pouvoir le refaire après.
D'accord, ouais. Tu veux venir déjeuner ?
Bah, avec
plaisir.
Je te fais
une tranche de foie ?
Ouais, je veux bien.
Et quoi à côté, mon amour, dis-moi ?
Une salade.
Une salade. D'accord, chérie, super.
Ok.
Bon, alors, je te vois mercredi, alors.
Ça marche, hein. Yes.
Gros bisous.
Gros petit bisous, Manana.
Ciao, Rahi.
Ciao, ciao.
Bon, ben, ça, c'est ma grand-mère et moi.
Le numéro, oui, chérie.
Ce jour-là, Nano allait m'apprendre à faire une molokhaya, le plat typique égyptien. Un ragoût de viande dont l'ingrédient principal est une herbe verte un peu amère, appelée molokhaya.
Mais il y a une chose que je vais t'apprendre demain. Parce que dans la molokhaya fraîche, je mets de la molokhaya sèche aussi. Mais, ça, c'est mon petit secret à moi. Parce que ça la rend plus onctueuse, tu vois.
Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que ta mère, elle faisait aussi ?
Non, en Égypte, nous avions de la fraîche.
Ah, que la fraîche ?
Oui, nous n'avions pas besoin de sèche. Elle était fraîche, la nôtre.
Alors, on fait griller de la viande et là, on blanchit l'ail.
Et je blanchis l'ail. Et après, on va préparer un autre... récupérer les oignons. Ouais, ça, et après, on va faire une petite préparation de coriandre, ail, oignon, qu'on doit cuire de différentes façons, qu'on va mixer ensemble et qu'on viendra incorporer dans la... dans la marmite ensuite.
D'accord.
Mais première étape, donc griller la viande et l'oignon. On va peut-être nettoyer la coriandre. Je vais la rincer là-dedans. Hop. Ah oui, je voulais faire bouillir de l'eau aussi parce qu'il faut du coup après recouvrir la viande et l'oignon d'eau chaude.
Et vous aviez filmé votre grand-mère polonaise aussi ?
À la base, en fait, vous avez beaucoup, beaucoup filmé les deux, quoi. Parce que mon premier projet de documentaire, c'était de faire un film sur elle, les deux. Et du coup, je les ai beaucoup filmés. Ouais, je dois avoir une quarantaine d'heures de rush pour chacune, quoi. Qui date de 2004-2005. Toujours est-il que ce film n'a jamais vu le jour. Sachant qu'entre-temps, ma grand-mère polonaise est décédée. Mais pas mal d'années après, quand je l'ai fait une bonne introspection pour trouver qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur et qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu faire dans ma vie qui me rende fier. Et en gros, j'ai repensé à l'histoire des grands-mères, machin. Et j'avais quand même cette envie de mettre côte à côte des histoires de grand-mères qui ont des parcours différents, etc. Et de voir qu'en fait, c'est tout un tas de choses qu'elles partagent par ailleurs, en tant que personne et en tant que dans leur démarche. Et d'où l'idée de faire appel à d'autres réalisateurs pour qu'on fasse chacun un film sur notre grand-mère et qu'on les mette sur une plateforme commune.
Et vous vouliez l'appeler comment, le film de vos deux grand-mères ? Vous auriez mis les deux, vos deux grand-mères, ensemble ?
Oui, c'est ça, l'idée, c'était vraiment de croiser leurs histoires, en fait.
D'accord.
Et je pense que ça aurait bien marché. Hein. Ça, bah, d'autant plus qu'il y avait quand même des moments où elles se rencontraient, vu qu'on a des repas où nos deux familles se retrouvaient et tout. Ouais. Donc je pense que ça aurait fonctionné, mais j'avais pas assez de matière pour vraiment faire un film de A à Z, en fait.
Mais c'était au tout début de votre carrière de réalisateur, en fait. Vous avez commencé par la documentation.
Oui, en fait, c'était même la première fois que je prenais conscience que je voulais faire du documentaire. Avant, j'avais fait de la socio à la fac. Et je me suis dit, je crois que c'est. Je veux raconter des histoires où je veux parler de la vie des gens, en tout cas différemment. Donc je me suis rendu compte que c'était le documentaire que je voulais faire. Et la première idée que j'ai eue, c'était ça, en fait. Mm. Et après, du coup, j'ai fait deux, trois choses entre temps, mais c'est. Ça a commencé par ça, ouais.
D'accord. Donc de mettre vos grands-mères devant une caméra et de les filmer.
C'est ça que je voulais dire. C'est que j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps qui parle de mort. Qui s'appelle Mortel, qui ne parle que de la mort. Et il y a un des épisodes qui raconte les différentes étapes du deuil. Et qu'est-ce qu'on fait de la mort, etc. Machin. Et en fait, je crois que mon projet, j'ai compris là, il y a quelques jours, que mon projet était aussi une façon de s'adresser à la mort. Enfin, ce qui est pas, je veux dire, quand on y pense, c'est pas un truc de fou ce que je raconte, mais c'est tellement lié au fait de faire survivre quelque chose que d'un coup, c'était vraiment, c'est marrant parce que la journaliste dans le podcast parlait. La perte d'un proche, etc. Et comment ça nous traverse, qu'est-ce qu'on essaie d'en faire et tout. Et moi, je l'ai vraiment entendu de manière hyper différente, quoi. C'est assez énorme. Donc, j'ai pas fait le tour de la question encore intégralement, mais je sais qu'il y a un truc lié au deuil ou au non-deuil ou l'anticipation d'un deuil.
L'anticipation d'un deuil, parce que le fait de les filmer, ça vous apportait quoi ?
Non, mais moi, clairement, il y avait un truc de préservation, quoi. Il y avait un truc de garder une trace, parce que au-delà de leurs recettes, qui d'après moi sont quelque chose à conserver et à transmettre qui me rattache à mes identités.
Et de ce que vous racontiez pendant la recette aussi, parce que
voilà. Et mais après, au-delà de ça, c'était aussi de garder un souvenir plurisensoriel de l'histoire de ces femmes, quoi, et de ce qu'elles ont traversé, et comment elles ont tenu bon. Enfin, moi, je suis quand même assez admiratif de leur courage et de leur capacité à survivre, à se réinventer et tout, quoi. C'est nous, notre génération, on s'en rend pas trop compte. Enfin, on se rend pas compte du tout même de ce qu'elles ont pu éprouver et tout, les pertes qu'elles ont vécues. Aussi.
Qual é o seu nome?
Rosa Maluf Milan.
A gente vai fazer um filme sobre uma das suas receitas.
Sobre uma das minhas receitas.
Oui, alô, bonjour, madame Annex.
Oui.
Oui, bonjour, c'est Bernard, c'est le boucher. Je sais que vous allez faire un lait de poule avec votre petit-fils la semaine prochaine.
Oh, merci. Je te reconnais, toi. Mais quand est-ce que tu viens?
Eh ben, je viens justement jeudi.
Et donc, c'est ta maman qui t'a appris et le lait de poule et les crêpes.
Oui, par maman. Avant de partir à l'école, maman nous faisait un lait de poule chaud. Et nos parents nous donnaient ça l'hiver parce qu'il faisait froid. On avait 4 km pour aller à l'école. À pied, il fallait beaucoup d'énergie.
Et après, tu l'as refait à tes petits-enfants?
À mes enfants. Et après, aux petits-enfants. Il faut perpétuer les bonnes choses, parce que c'est naturel. Les œufs et du lait, du sucre. Qu'est-ce que tu veux de mieux?
Et du coup, en les filmant, vous avez aussi leurs manies, leurs habitudes.
Ouais, bah ouais. Quand j'ai filmé les deux sans avoir de but trop précis que faire un film sur elles, je m'éclatais à vraiment filmer tout leur quotidien. J'ai des scènes géniales où mon autre grand-mère, la polonaise, elle s'habille et tout, on la voit comment elle est coquette, etc. Enfin, c'était... Non, c'est génial.
Alors, attends, je vais encore couvrir un peu et après, je vais peut-être écraser l'œil.
Donc, Grand Mass Project s'est mis en place, du coup. Comment ça s'est passé pour faire appel aux autres réalisateurs? Déjà, comment vous est venue l'idée d'une web-série collaborative? Et ensuite, est-ce que vous avez, vous, approché les réalisateurs? Est-ce qu'on est venu vous voir?
Alors, comme je pouvais plus faire de films sur mes grand-mères, mais que j'avais cette envie d'histoire plurielle, etc., de toutes ces femmes, en s'appuyant sur une recette de cuisine et tout, j'ai pensé à... Et sachant que j'avais passé quelques années à New York, où j'avais donc rencontré pas mal de gens d'un peu partout dans le monde et tout, assez facilement, je me suis dit que je pourrais solliciter, en fait, des potes réalisateurs, qui avaient à peu près mon âge, donc encore possiblement l'âge d'avoir une grand-mère en vie, pour qu'on donne un exercice qu'on ferait tous ensemble, un film de 8 minutes avec une grand-mère et une recette, enfin notre grand-mère et une recette, et de voir, en fait, ce que ça donne de les mettre côte à côte, quoi. Donc quand j'ai eu l'idée, j'ai proposé à 2-3 amis de faire un film sur leur grand-mère pour m'aider à voir si ça fonctionnait bien. Donc il y a un de mes meilleurs amis qui a fait un film sur sa grand-mère brésilienne, une fille qui était dans la même fac que moi qui a fait un film sur sa grand-mère croate, et un jeune réalisateur que je connaissais d'ici qui a fait un film sur sa grand-mère bretonne. Et donc en fait, quand ces films ont été faits, j'avais acquis la certitude, on va dire, que le truc marchait très bien, quoi. Et qu'en fait, cet exercice, enfin ces quelques règles de base, permettaient de faire des films très différents, parce que chaque réalisateur a sa façon d'abord de raconter des histoires, avec des personnages très différents, des ambiances et des cultures très différentes, et malgré tout, un fil rouge très très clair. Et du coup, à partir de là, j'ai proposé à d'autres réalisateurs, que je connaissais moins directement, mais par le biais toujours de personnes interposées. Et ensuite, quand j'ai obtenu le patronage de l'UNESCO, là j'en ai profité pour faire un appel à réalisateurs. Et donc là, on a reçu des candidatures, et on a un jury à sélectionner parmi ces candidatures. Et là, pour la nouvelle saison à venir, on reprend uniquement le principe d'appel à réalisateurs, c'est-à-dire d'essayer de recevoir un maximum de candidatures du monde entier, et un jury resélectionnera un certain nombre de films courant, enfin début 2020.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de mim, a gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. você. Arpia, aranha, sabedoria de rapina, de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua se manda, sai do meu sangue, sangue suga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar.
Não, enchei. De Caetano Veloso, je suis ravie que vous écoutez le Goût du Monde. Nous sommes dans la cuisine de Jonas Pariente, avec un peu de sa grand-mère avec nous, puisqu'on l'a appelé déjà pour savoir un petit peu comment se poursuivre la recette. Puis surtout des parfums de coriandre et de tomates et d'ail, puisque nous sommes en train de faire une molorella qui est le plat de la grand-mère de Jonas.
Alors attends, je vais juste remettre un peu d'eau chaude, ça couvre un peu mieux. Et il faut que j'incorpore 2-3 autres choses. Viande grillée, ail, oignon. Remplir avec de l'eau jusqu'à immersion quasi totale de la viande.
C'est le cas.
Voilà. Faire bouillir à feu normal aussi, ça. Parce que faire bouillir maintenant une première fois pour faire ressortir l'écume. Et en fait, ce que j'ai oublié d'écrire sur le site, et là franchement, c'est un piège que j'ai tendu aux gens, je n'ai pas mis la sauce tomate. Je l'ai mis dans la liste des ingrédients, mais j'ai oublié de mettre qu'on mettait aussi la sauce tomate.
Et c'est le moment où il faut la mettre en fait.
Oui, oui, absolument. Enfin, j'ai un doute. Soit maintenant, soit après le. Je vais appeler ma grand-mère immédiatement.
Je crois qu'il faut, oui.
Après, je peux regarder mon film aussi, hein, tant qu'à faire. Non, mais je vais appeler ma grand-mère.
J'ai pas le souvenir dans le film de la viande qui bouillonne dans la marmite.
Si, ça, j'en suis sûr. Ouais, parce qu'après, on fait bouillir une première fois, mais là, ça bout déjà, en fait. Donc après, je vais m'occuper de sortir l'écume.
Faut appeler la
nôtre. Mais je crois que je vais l'appeler vite fait. Quoique, en fait, ça, maintenant, c'est trop tard. Donc ça bout, il y a l'écume. Je vais enlever l'écume et je vais mettre la sauce tomate. Ouais. C'est pas grave. Et voilà. Donc j'en étais où dans mon histoire les...
Donc l'appel à réalisateur. Quand vous avez proposé à...
Ah oui, le fil rouge.
C'est ouais, le fil rouge, ouais. Comment vous qualifieriez ce fil rouge dont vous parlez?
Bah, y en a plusieurs en fait. Il y en a un qui a trait à l'intimité qu'on ressent. C'est-à-dire que comme le principe justement... Parce que la facilité, à un moment je m'étais demandé si j'allais pas faire moi une série en fait de films sur des grands-mères dans le monde entier qui font des recettes et tout, et ça aurait fait un truc très sympa et que j'aurais sûrement plus facilement vendu à Arte.
Donc chaîne de télévision.
Une chaîne de télévision, enfin en tout cas que j'aurais plus facilement vendu à une chaîne de télévision. Mais toujours est-il qu'en gros, moi ce qui vraiment me faisait triper, c'était le fait que des réalisateurs filment leur grand-mère, parce que bien évidemment, c'est une toute autre démarche et un tout autre résultat. Et en fait, un des fils rouges, je pense que c'est vraiment le fait d'être plongé dans l'intimité dès les premières secondes, puisque forcément, quand on a, comment dire, c'est la magie qui s'opère, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant que réalisateur ou moi, en tant que réalisatrice, j'arrive chez ma grand-mère avec ma caméra, et quand bien même j'ai ma caméra, qu'elle soit gênée ou qu'elle fasse une blague ou qu'elle se soit apprêtée, il y a un truc qui raconte déjà la relation qu'on a avec notre grand-mère. Et donc, cette intimité-là fait que, quelle que soit la culture de la grand-mère, ce que je trouve, enfin, ce qui me réjouit, c'est qu'en fait, même les grand-mères, disons, nous en France, qui vont être plus des cultures plus éloignées, type l'Inde ou le Brésil, on a vraiment presque l'impression qu'on est avec sa propre grand-mère. Et ça, c'est génial. Et ça repose sur le fait que c'est les réalisateurs qui filment leur grand-mère, quoi. Mm. Tout simplement. Donc, ça, c'est le premier fil rouge.
La tomate.
Le coulis de tomate.
Coulis de tomate.
Sachant que je sais pas la. Attends, parce que je voudrais pas me tromper sur la quantité. Parce qu'en fait, sur mon site, j'ai mis des quantités pour plein de personnes. Et en fait, il faut que je divise tout par 3. 500 grammes divisé par 3, ça fait à peu près 160. Mm. Allez, j'en ai un tout petit peu. Alors, ce que je dois dire, ce que je trouve très sympathique dans le fait de refaire la molokhia de ma grand-mère, c'est que j'ai quand même la liberté de l'interpréter un peu. Et ça, c'est sympa. J'ai l'impression d'avoir acquis un droit d'adulte, même de suradulte, que je n'avais pas avant, du genre, tu es spectateur de la maestria de la grand-mère. Et en fait, là, je me dis, c'est ma molokhia, donc si je la veux un peu plus à la tomate ou un peu, un peu moins de citron, un peu plus de je sais pas quoi, de coriandre, je peux le faire.
Je peux, j'ai le droit.
Voilà. Il y aura peut-être des protestations au sein de la famille, mais au moins, c'est ma molokhia. Alors là, on peut laisser cuire en fait, hein, maintenant pendant longtemps. Je vais même faire moins fort. Et du coup, on peut passer aux étapes suivantes. Ah, mais non, voilà, c'est la connerie que j'ai fait.
En même temps, pour ma molokhia maestra, c'est un peu difficile parce qu'on vous embête un peu là.
Je n'aurais pas dû écraser les gousses d'ail. Parce que normalement, elles devaient me resservir. Je vais les faire cuire différemment, dans du jus.
C'est bien ça.
Alors.
Dans le jus de la molokhia.
Exactement.
Alors
par contre, ça va être très aillé. Donc, faire griller la coriandre.
Donc, la transmission s'est bien opérée, en fait, entre votre grand-mère.
Oui, mais surtout, je sais pas si pour elle, c'est un plaisir. Moi, c'est une sorte de loisir, en fait. Alors que pour elle, c'est... je pense que ça n'a pas la même valeur dans le sens où elle ne fait que ça. Donc, son plaisir à elle, c'est de nous faire plaisir, de nous nourrir.
De partager.
Mais je sais pas si le moment en tant que tel est un moment plaisant pour elle, comme il l'est pour moi. Alors, est-ce que je fais ça là-dedans? Ouais. Hop. On disait fil rouge.
Donc le premier
accent. Le premier, j'en ai parlé. Le second, c'est le type de femme que c'est. Et alors, bien sûr, j'imagine que les réalisateurs du coup qui ont candidaté, ou les réalisateurs qui ont dit oui quand je les ai invités, ils ont dû être touchés par le projet parce qu'ils avaient des grands-mères probablement fortes en caractère ou qui avaient en tout cas quelque chose d'assez particulier. Mais malgré cela, donc peut-être que c'est pas un échantillon représentatif, on va dire, de toutes les grands-mères du XXe siècle. Ceci étant dit, vu ce que ces femmes ont traversé, puisqu'on parle de femmes qui ont entre 75 et 95 ans, c'est forcément que des femmes qui ont vécu en fait toutes les énormes crises du milieu du XXe siècle, quoi. Seconde Guerre mondiale, décolonisation, création de nouveaux États, machin. Et aussi des femmes qui étaient de jeunes femmes avant vraiment l'éclosion des mouvements de libération de la femme, etc. Donc qui étaient quand même, qui sont nées dans une société traditionnelle. Et donc, et je trouve que quand on voit différents films, il y a un portrait de génération qui saute aux yeux aussi, quoi. Mmh. Et donc ça, c'est chouette. Ouais. Ce que je trouve génial, c'est que quel que soit en fait le pays, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sent quand même que c'est des femmes fortes, quoi, des femmes fortes à leur manière, mais des femmes fortes dans leur transmission, fortes dans leur façon de se tenir droit,
assises dans leur vie,
ou assises dans leur vie, exactement.
Ouais. Et on a parlé très brièvement tout à l'heure de la coquetterie.
Ouais.
Parce qu'en regardant les films les uns les autres, il y a quelque chose qui revient souvent. C'est « Ah, mais je suis vieille, regarde mes rides » ou « Je suis moche » qui sont un peu gênés justement par cette caméra.
Mais c'est vrai, hein, y a ce côté-là. Bah, en fait, après, c'est aussi moi, du coup, pour le coup, en tant que producteur, moi j'aime les films documentaires où on sent la présence du réalisateur et où la place de la caméra est verbalisée. Donc moi, je pousse les réalisateurs à garder ces moments où les grands-mères parle de cette relation à la caméra, parle de cette relation au fait d'être filmé, etc. Donc, comment dire, naturellement, j'aime bien qu'on garde ces moments-là dans les montages. Du coup, il y a cette question de l'image, de la représentation aussi, quoi. Parce qu'elles sont pas nées avec un smartphone dans les mains, ces femmes-là.
Ce qui aide d'ailleurs à l'intimité, à se sentir vraiment dans l'intimité du film et dans l'intimité de la relation. Parce qu'on assiste à ça, au fait que c'est pas normal d'avoir une caméra dans une cuisine,
ouais.
Alors que d'habitude, on est tranquille avec son petit enfant.
Ouais, et puis chaque grand-mère, pour le coup, il y a vraiment des grand-mères qui ont un peu ça en elles, quoi, qui aiment bien pavaner ou qui aiment bien.
Un peu comédienne.
Qui sont un peu comédiennes, voilà, qui sont pas mécontentes qu'on les filme et tout. Puis il y en a qui sont quand même plus réservées, qu'il faut un peu aller chercher. Et ça, je trouve ça assez chouette aussi, quoi. Parce que du coup, ça oblige les réalisateurs ou les réalisatrices à faire quelque chose de ça, quoi. Et à trouver la bonne façon de raconter ces femmes-là et cette partie de leur personnalité.
Oui, parce que 8 minutes, c'est court, en définitive.
8 minutes, c'est court, ouais. Et pourtant, c'est long, hein. Parce qu'on a toute une problématique sur comment on incorpore le. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont pas réalisateurs qui voudraient participer et on sait pas encore trop comment leur répondre. Et en fait, pour avoir un peu testé le truc, proposer à quelqu'un qui n'a jamais fait de film de faire un film de 8 minutes avec la quantité de rush nécessaire, une suite logique et narrative,
une
etc., machin, c'est pas facile du tout, en fait. Donc en 8 minutes, on peut quand même dire des choses, hein, clairement. Et même les réalisateurs avec leur rush, ils auraient pu faire au moins chacun 3 ou 4 films, quoi, vu tout ce qu'ils ont filmé, quoi. Donc là, je mets les graines de coriandre sèches à griller, à même la poêle, quoi. Encore une fois, dans la stricte reproduction de ce que fait ma grand-mère, pour le coup. Hop. Alors, les odeurs, parce que j'ai découvert ça en filmant ma grand-mère, du coup, faisant la molochéa, mais les odeurs de la coriandre grillée, par exemple, ou ensuite, quand elle est broyée et tout, c'est assez dingue.
C'est ça, en fait. La recette de cuisine, elle appelle un peu tous les sens, quand même.
Ça, c'est sûr. Alors, je vais quand même passer un coup de fil à ma grand-mère, parce que j'ai une question aussi sur la coriandre. Il me semble. Non, c'est bon. En fait, à l'œil.
Si,
appelle ta grand-mère. J'appelle ma grand-mère, très bien. Mais en fait, à l'œil, si tu veux, c'est pas tant que j'ai. Là, pour le coup, c'est même pas mon site qui m'aide,
c'est le souvenir.
Et voilà.
Et ben, toi, tu sauras faire les Marienknödel.
Ça te fait penser à quoi?
Ça me fait penser à ce que mes enfants n'ont jamais aimé dans ma cuisine, que j'ai jamais pu faire. J'ai donc jamais fait de cuisine autrichienne, du tout, du tout, du tout. Maintenant, il faut débarrasser la table, ce qui est ennuyeux.
Je vais le faire.
Hein ?
Je vais le faire.
D'accord.
Mais tu t'es pas fait prier, hein ?
Non. Je me suis pas fait prier. Ça, tu vois, c'est 10 ans de vie que tu me donnes.
On parlait des réalisateurs. Vous aviez commencé à nous dire que en fait certaines personnes c'était du coup en découvrant Grand Mass Project proposé pour faire eux-mêmes des films. Comment est-ce que vous avez pu ouvrir et permettre à d'autres de participer, parce que j'imagine que c'était frustrant du coup.
Comme très tôt c'est arrivé, le fait que des gens veuillent raconter l'histoire de leur grand-mère, etc.
Oui, c'est ça, vous ne m'avez pas dit. Au tout début, quand vous avez montré vos premiers films, il y a eu quel type de réaction ?
Bah, très enthousiaste. En fait, j'ai la chance d'être porté. Ce qui est, comment dire, au début du projet, en fait, j'ai pas trop réussi à trouver des partenaires ou des financeurs institutionnels, des chaînes de télé ou autres. Donc, je me suis tourné vers un principe beaucoup plus. Tourné vers les spectateurs, le public, etc. Donc du financement participatif, la série en elle-même était de façon contributive quoi, ou collaborative. Mais le fait est qu'en fait j'ai toujours été très très porté par le retour des gens qui ont tout de suite pigé l'idée et qui m'ont tout de suite renvoyé à un truc du genre c'est vrai que c'est simple, ça paraît con même, et en même temps c'est génial quoi. Lors de la première campagne de financement participatif, j'avais proposé aux gens qui contribuaient même des petits montants de nous envoyer la photo de leur grand-mère avec un petit texte qu'on partagerait sur les réseaux sociaux, et en fait j'ai été assez surpris de voir que les gens le faisaient vraiment quoi. Ils étaient vraiment contents que une tierce personne ou une entité autre qu'eux publie la photo de leur grand-mère sur Facebook et partage le texte qu'ils ont écrit sur elle,
qu'on lui donne une place comme ça.
Exactement.
Un peu public.
Et du coup bah en fait donc après j'ai vraiment incorporé ça dans le site, c'est-à-dire qu'on a créé une partie pour les amateurs où les gens nous envoient de temps à autre une photo et un texte sur leur grand-mère.
Oui, il y a un formulaire qu'on peut remplir sur la page. Ouais.
Absolument. Mais le fait est qu'on est, je reste frustré du fait que pas mal de gens aimeraient s'essayer au format vidéo et que pour l'instant, j'ai jamais redirigé personne vers le format 8 minutes parce que, ou alors en tout cas sans pouvoir les accompagner vraiment parce que c'est trop compliqué à faire quand on n'a pas un peu deux, trois clés, quoi. Donc on est en train de réfléchir à un format beaucoup plus court avec un tuto. En fait, je pense que je vais enregistrer un tuto que je vais mettre sur YouTube et en disant voilà les 5 grandes étapes pour faire un film à la Grand Mass Project, mais ce sera sûrement pour diriger les gens vers un truc de 2 minutes 30, quelque chose comme ça.
D'accord.
3 minutes avec un process à suivre, et si on arrive à mettre ça en place, du coup il est probable qu'on reçoive beaucoup plus de contributions.
Bien sûr.
Et là peut-être qu'on ferait une sorte de carte du monde interactive
sur laquelle on pourrait aller, cliquer, voilà, aller voir
région
une recette
par région,
région par
mais
région.
Ça demande un peu plus de ressources encore.
Il y a quelqu'un nous qu'on connaît qui s'appelle Clara Delcroix, qui est une jeune femme qui est mondo-blogueuse sur RFI depuis qu'elle est toute petite. Depuis qu'elle a 7 ans, elle est avec sa sœur Ise un blog qui s'appelle Mémé Monique, où elle poste toutes les photos de sa grand-mère Monique, et elle a fait un film.
Bonjour, je suis la grand-mère de Clara et Ise.
Et tu t'appelles comment?
Mémé Monique. Oh non, faut arrêter votre jeu.
C'est intéressant, c'est une transmission un peu entre les générations. Lorsqu'on y allait, quand on était petite, on allait en vacances pendant une semaine, deux semaines. Souvent, on cuisinait avec elle. Elle nous donnait ses petites astuces, ses recettes, des astuces de grand-mère, comme on dit. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est rigolo parce que parfois, c'est un peu dans l'autre sens parce que on sait qu'elle cuisine moins vu qu'elle est plus âgée. Et donc, il y a des recettes qui sont compliquées à réaliser pour elle, soit parce qu'il faut les faire en grande quantité, soit parce que c'est des gâteaux où il y a un peu de préparation. En gros, nous, on va lui préparer, on va lui rapporter, soit pour qu'elle le mette au congélateur, soit, je me rappelle, on avait fait un gâteau ananas crème chiboust parce qu'elle en réalisait pour les fêtes de famille dans le temps. Et quand on lui a ramené, elle était toute contente, elle s'y attendait vraiment pas. Ça lui a rappelé des souvenirs de l'époque.
Vous avez filmé votre grand-mère en train de cuisiner une poule au pot. Alors, c'est un petit bijou, ce film. J'ai eu la chance de le voir. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de filmer ?
En fait, d'un côté, ça m'a permis de voir tous les petits détails auxquels on fait pas attention quand elle réalise la recette. Parfois, elle fait des choses et, je sais pas, on se rend pas vraiment compte, on n'y pense pas, on se dit oui, elle le fait à sa manière. Sauf que là, comme j'étais en train de filmer, je lui demandais en même temps comment tu fais précisément à ce moment-là, parce que je comprends pas bien ce que tu fais. Donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la recette. D'un autre côté, c'était aussi assez amusant parce que elle voulait pas vraiment être filmée, elle disait oh non, je suis toute moche, je suis vieille, je suis toute ridée. Mais elle passe très bien à la vidéo au final, en fait. En plus, elle a beaucoup d'humour, je trouve, quand elle fait des petites actions anodines parfois, mais ça apporte beaucoup d'humour.
Et puis c'est une trace incroyable que vous avez de votre grand-mère, là.
Ouais. Ça permet de conserver des bons souvenirs aussi, on se dit, pour dans le futur.
En passant par la cuisine et par les recettes, ça a resserré votre relation avec votre grand-mère ?
Ah, bah, je sais pas, je trouve que dans l'ensemble, la cuisine, ça crée des liens. Que ce soit en cuisinant ou en étant à table avec d'autres gens. Chaque famille a ses recettes de grand-mère qui se transmettent comme ça, de génération en génération. Et c'est un peu des recettes, on va dire, régionales ou parfois des recettes un peu oubliées. Du coup, il y a des gens qui vont nous dire « Ah, mais c'est génial, ça me rappelle mon enfance. » Parce que après, c'est un peu chaque famille a vraiment sa propre recette. Chaque grand-mère, en gros, y apporte sa petite touche personnelle. Et justement, ça permet de faire perdurer ce patrimoine. C'est sûr que ça crée du lien, je pense, dans tous les cas.
Bon, il y a bien une recette que vous aimez, vous, particulièrement, qui me fera penser.
Ah, la tarte au sucre. Définitivement, la tarte au sucre. Dans le Nord, on appelle ça des tartes à gros bords. C'est avec une pâte levée. C'est très simple comme recette, avec des ingrédients que tout le monde a chez soi. C'est simple, c'est tout ça qui est bon. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire cette recette. C'est une recette du Nord, mais celle de ma grand-mère, j'ai tendance à dire que c'est la meilleure.
Elle n'est pas vidée, la poule.
On est maladroit quand on devient vieux. On n'a plus de force, on ne sait plus ce qu'on fait. Ça s'appelle un bouquet gardi, oui. Du céleri, du thym, du laurier, des plantes aromatiques. Voilà, mais ça, faut que tu me fais dessus. C'est malheureux, tu sais. C'est sorti de la bête.
Ouh. Ah, c'est comme une béchamel, tu fais un roux et tu mets ensuite le jus de la poule.
En fait, quand je l'ai interviewée, évidemment, elle connaissait puisqu'elle a participé à Grandmas Project, mais juste en mettant la photo de sa grand-mère et un petit texte. Et elle a dit que Grandmas Project, pour elle, c'était génial pour ça, justement, cette mise en commun de tout ce patrimoine. Vous, quand vous entendez ça, vous entendez tout le temps, en fait, c'est le genre d'écho que vous avez de votre projet ?
Bah là, elle en parle bien. Elle en parle bien et longuement, ce qui est... Souvent, les gens, c'est un peu plus succinct, mais on va dire que presque les deux plus belles récompenses que j'ai avec le projet, c'est quand les réalisateurs... Enfin, jusqu'à présent, je crois que c'est le cas de tous les réalisateurs qui ont participé, qui m'ont remercié après avoir fait leur film, que le projet ait pu créer ce déclic, parce qu'en fait, souvent, c'est des gens qui y avaient pensé et qui se disaient « il faut le faire », et qui l'avaient jamais fait. Et donc, et a priori, à chaque fois, les tournages, il y a eu des moments assez magiques entre les réalisateurs et leur grand-mère. Et donc, le fait qu'ils me remercient, je me dis « bon, bah, c'est quand même génial, quoi. » C'est que ça... C'était le petit déclic qu'il fallait pour leur faire passer un moment qui compte, quoi, dans la vie d'une personne, quand même. Aussi bien pour la grand-mère que pour le petit-fils ou la petite-fille, quoi. C'est les quelques heures dont on parle, c'est des heures importantes dans la vie de quelqu'un, je trouve. Mmh. D'une part, et après, quand des gens, pour le coup, qui m'écrivent juste ou me disent « en voyant votre projet, je suis allé voir ma grand-mère ce week-end avec un micro, avec mon téléphone ou quoi, où j'ai noté ses recettes, etc. » Quand je sais que ça a déclenché ça, je suis assez content.
Vamos, hijos! Empezamos ahora!
Yeah, Big Flo Oli. Tu connais, non? Yeah. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses blagues quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs. Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien.
Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue. Aprendí que en la vida no vale más que papá, 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 papá.
notre père Fabien de Big Flo et Oli sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes à Paris, dans la cuisine de Jonas Pariente, réalisateur et producteur de la web-série collaborative Grande Masse Project, dans les parfums du plat de sa grand-mère, la Molorella de Nano. La recette, c'est un bon support.
La recette, c'est un excellent support, parce que souvent, les gens me disent que la recette est un prétexte. Une fois que je leur explique tout le projet et tout, ils me disent « Ah oui, mais la recette, du coup, c'est juste un prétexte. » Et en fait, vraiment pas, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement réducteur d'imaginer que la recette est juste une sorte de truc qu'on fait comme ça et que le vrai sujet, c'est l'histoire. Mais en fait, non, la recette est aussi un... Et donc maintenant, j'en suis arrivé à cette formulation où je dis aux réalisateurs, pour les mettre sur une certaine voie, je leur dis vraiment « Prends la recette comme un personnage de l'histoire. » C'est pas juste un accessoire, c'est pas juste une sorte de façon d'occuper ta grand-mère pour lui faire cracher sa valda, c'est un personnage de l'histoire. Et à commencer par pourquoi c'est cette recette et pas une autre, la même question que vous avez posée, et qu'est-ce que cette recette raconte dans ce triangle narratif, ne serait-ce que celui-là, parce qu'après il y a aussi qu'est-ce qu'elle raconte pour les autres membres de la famille, quel rôle joue ce personnage. Et là on se concentre que sur trois générations, mais en fait les grand-mères, elles l'ont bien apprise quelque part,
oui,
cette
c'est
recette.
Ça. D'où vient
donc,
la recette.
Donc, en fait, c'est un personnage qui joue, qui est évolutif, qui ne meurt pas vraiment, et qui traverse les générations. Donc, moi, je trouve ça assez fascinant, en fait, de réfléchir à ça.
Et c'est un personnage qui est témoin aussi de, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, des guerres, des évolutions, des mouvements économiques et sociaux. Je pense notamment à Laïvar, comment on l'appelle ?
Laïvar, oui.
Laïvar. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce film, qui est un des films de Grande Masse Project ?
Oui, je peux même élargir un petit peu plus pour commencer, parce que ce qui m'a un peu surpris lors de l'appel réalisateur, c'est qu'on avait, donc on a reçu la première fois, on avait reçu 60, 70 candidatures, et il y avait beaucoup de propositions des Balkans. Enfin, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices venant d'origine balkanique qui ont proposé de participer. Et en fait, ça m'a éclairci quelque chose que j'avais compris, qui est que dans les peuples, dans les communautés, dans les collectifs qui ont subi des crises et des exils très forts, la recette prend une tournure particulièrement importante. Donc c'est le cas du peuple juif par exemple, mais c'est aussi vraiment le cas de la diaspora balkanique qui et donc en gros là il s'avère que j'avais plusieurs candidatures de réalisateurs ou réalisatrices nés dans les années 80 comme moi, qui ont du coup pris de plein fouet la guerre de Yougoslavie au début des années 90. Et en l'occurrence, donc, le film Aivar, c'est une réalisatrice qui a grandi là-bas, dont les grands-parents sont encore en Serbie, qui vit, elle, depuis les débuts des années 90 aux Pays-Bas, et qui, une fois que la guerre s'est apaisée, a pu aller retourner voir ses grands-parents une fois par an, je pense qu'elle y va tout l'été, quelque chose comme ça. Et cette grand-mère, au-delà de la recette, pour le coup, qui donc est une recette de poivrons rouges, qui je trouvais assez emblématique aussi de cette région, un peu au croisement géographique de mondes, entre l'Orient et l'Occident, au confluent de différentes cultures, il y a aussi cette femme qui est très très dure, quoi. C'est une des grand-mères les plus dures, je trouve, dans la série, de la saison 1, en tout cas. Et en même temps, il y a de la tendresse, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est que un autre point commun de ces femmes et de ces films, c'est que toutes ces grand-mères-là, je pense, c'est des femmes qui ont été des mères assez dures, et qui sont quand même des grand-mères tendres, et qui ont réussi à créer de la tendresse avec leurs petits-enfants, alors qu'elles n'ont pas pu le faire avec leurs enfants, souvent.
Ko je tebe učio da praviš, Ajva?
Nije niko, čitala iz novina. Pisalo, moj kuvar i savjetnik.
On a aussi une grand-mère qui est d'apparence assez, assez ferme, assez dure et qui exprime justement ce passage qu'elle arrive à faire avec sa petite fille.
Bah déjà, moi je suis content qu'on ait des films comme ça parce que au tout début du projet et que j'espérais le faire financer par des chaînes ou des choses comme ça, j'ai vécu une expérience un peu frustrante parce que mes interlocuteurs ont cru que je voulais faire un projet très passéiste et très nostalgique qui ne faisait que glorifier le fait que une certaine génération de femmes faisait très bien à manger en cuisine. Et c'était pas du tout ça mon propos, et j'étais frustré de pas réussir à avoir fait passer ce message. Et en fait, quand il y a des films comme ça maintenant, de grand-mères qui assument de pas savoir cuisiner, qui se considèrent même comme des mauvaises chefs, qui ratent les trucs, et qui par ailleurs sont des femmes des intellectuelles, qui sont revêches un peu, etc. Moi, je suis content qu'il y ait...
Ils sont pas dans le cliché de la femme telle qu'on pourrait l'avoir.
Dans l'anti-cliché, quoi. J'aime bien qu'en fait, ce type de femme et ce type de personnage cohabite avec des grand-mères plus comme la mienne qui sont pour le coup beaucoup plus clichés, de la grand-mère méga maternante et tout, parce que c'est des trajectoires en fait aussi, je trouve que c'est des trajectoires de femmes justement qui ont presque rejeté la cuisine du coup, qui se sont fait vraiment en dehors de la cuisine par le travail, par l'intellect, par le par l'appartenance à la société, on va dire, beaucoup plus que l'appartenance au foyer et la cuisine notamment.
Mais votre grand-mère le regarde d'ailleurs dans le film, elle le dit qu'elle n'a pas travaillé, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a davantage cuisiné peut-être.
Ah oui, carrément, ouais. À la base, oui, non, carrément, elle a des... Ma grand-mère, elle avait des aspirations de carrière qui ont été totalement frustrées, mais parce qu'elle, pour le coup, en tant que jeune femme ayant grandi en Égypte, elle appartenait à une société très, très, très patriarcale. Et quand son père, puis son mari, lui ont dit « non, tu travailleras pas », elle a accepté sans broncher, quoi. Donc, c'est sûr que de nos jours, c'est moins fréquent, mais toujours est-il que oui, parce qu'elle n'a pas travaillé, du coup, c'est aussi ça qui fait qu'elle s'est portée sur la cuisine, ouais, bien sûr.
Portrait de femme alors dans le temps, portrait de femme aussi en ville, à la campagne, socialement également. On a une, on a Yaya, la grand-mère qui était d'un milieu assez bourgeois, ouais, qui est par un revers de fortune en fait finie dans sa maison, mais avec bien moins de sous, mais qui fait un soufflé au fromage et qui échange ça avec sa petite fille justement. On a tous les niveaux sociaux, on a sur le plan géographique, on a une vraie photo en fait de ces grands-mères. Vous pensiez quand vous avez commencé ce projet que vous arriveriez à ce genre d'image?
En tout cas, c'était le but, quoi. Le but, c'était vraiment de partir un peu comme au théâtre. Je crois que c'est au théâtre qu'ils ont cette règle de 3, 8, un accessoire, un lieu. Enfin, je sais plus quelle est la règle de 3 au théâtre, mais toujours est-il qu'en gros, je voulais repartir de ce principe d'avoir quelques règles fondamentales et en fait de voir ensuite comment des artistes, donc des réalisateurs ou des cinéastes, qu'est-ce qu'ils feraient de ces 3 règles. Et j'espère encore, parce que je suis à l'orée de la saison 2, le but c'est vraiment d'étendre au plus possible, j'aimerais voir un éventail le plus large possible de types de femmes, de façons de mettre en scène ces femmes. J'adorerais qu'un jour ou l'autre quelqu'un me propose un film d'animation, que quelqu'un me propose un film que à base d'archives, que quelqu'un veuille faire un film en noir et blanc. Enfin, je pense qu'il y a encore vraiment de la marge par rapport à ces règles initiales, quoi. Et puis c'était dans les critères de sélection que j'ai confié au jury, qui était de dire, bien sûr la qualité intrinsèque de l'histoire doit primer, mais ensuite il faut le maximum de diversité géographique, le maximum de diversité de types de femmes, etc., d'univers sociaux et tout. Donc c'était l'ambition première, oui.
Et d'ouvrir justement au-delà des frontières, parce que là on efface les frontières pour le coup aussi en regardant. Totalement. Parce qu'on va regarder une grand-mère qui est indienne ou pakistanaise et au bout de 2 secondes on lit les sous-titres et on oublie, enfin on se concentre sur la femme et sur son histoire et ce qu'elle raconte et la recette qu'elle partage avec sa petite fille.
Les 4 premiers films en fait qui étaient donc que j'ai demandé, je me suis adressé à des amis d'abord pour tester le concept, et donc au tout début j'ai eu 4 films, un brésilien, un croate et 2 français, dont ma grand-mère qui est en plus égyptienne, donc française d'adoption, quoi. Donc, le côté international, pour le coup, c'était vraiment le plus
d'emblée
constitutif.
Affiché.
Ah ouais, bien sûr. Parce que comme c'était une sorte de prolongement de mon envie de faire un film sur mes grand-mères, l'une étant polonaise et l'autre égyptienne, le fait de... Alors là, pour le coup, c'est une sorte de résidu de mes études de socio et d'anthropo, mais ce truc de comparatisme, et notamment donc de juxtaposer des cultures, etc., c'était fondamental. C'est le pilier du truc, quoi, du projet. Et j'aspire à ce qu'on ait d'ailleurs des films là. J'espère que lors de la prochaine fournée, on aura des films japonais ou sud-américains, ou même avec des africains. Là pour le coup, on y travaille sérieusement, même à l'Afrique subsaharienne, parce qu'on avait quelques grand-mères d'Afrique du Nord dans la saison 1, mais là en saison 2 on essaie vraiment de trouver des passerelles pour avoir
accès
plusieurs
des
candidatures,
camerounaises, sénégalaises.
Oui, puis anglophones aussi, quoi. Afrique noire, anglophone, francophone. Non, on est en train de tisser des liens, en tout cas, avec des relais potentiels là-bas. C'est génial parce que la sonorité, en fait, elle est. Oula, la musicalité des langues, je trouve, joue beaucoup, quoi. Je sais pas comment dire. Dans la façon dont on plonge dans l'histoire, quoi. Parce qu'il y a bien sûr, il y a la tenue. Là, par exemple, prenons l'exemple de la grand-mère indienne. Visuellement, définitivement, elle est indienne, elle est dans une tenue, elle est en sari, elle est indienne. Les ingrédients qu'elle utilise, il n'y a pas de doute, on y en a la plupart, on ne les trouve que là-bas. Mais par ailleurs, c'est aussi le langage qu'on entend, etc., le roulement de la langue qui fait le sel des histoires, quoi. Ouais, c'est une de mes préférées. Elle est très, très sobre. Elle est un peu austère,
dans la réalisation.
Mais moi, j'aime beaucoup, ouais.
Justement, c'est parmi les films celui qui vous a le plus ému la première fois, que ça a une résonance, ou c'est exactement.
Oui, mais c'est plus des moments. Dans chacun des films, effectivement, j'ai l'impression qu'on touche précisément à ce que j'avais en tête, quoi. Mais quasiment chaque film a un peu ça, finalement. De manière parfaitement égoïste, vu que je produis les réalisateurs et je les pousse dans la réécriture et dans le montage, j'essaie de faire éclore ce que je cherche, quoi.
Ouais.
Mais après, en fait, en écoutant la question, j'ai repensé à un moment que j'avais un peu zappé et qui m'est revenu. C'est dans le film brésilien. Petit-fils, donc Mathias, le réalisateur, parle à sa grand-mère. Ils sont en train de faire des feuilles de vigne. Elle parle du fait que les feuilles de vigne lui ont été transmise par sa mère et la sorte de gouvernante qui était très sévère. Elle parle de cette gouvernante qui était très sévère. Donc, et vraiment, elle est en train de faire les feuilles de vigne au moment où elle a cette discussion avec Mathias. Et en gros, Mathias lui dit, mais enfin, en gros, elle en arrive à dire qu'elle préfère les garçons. Alors que c'est une femme qui a eu 3 filles. Et c'est très étonnant parce qu'elle-même, étant une fille de Libanais, qui a sûrement souffert du patriarcat dans sa famille, dit de manière hyper transparente qu'elle préfère les garçons, en fait. Et que les hommes, c'est un peu mieux, quoi. Et là, je me dis, cette femme-là, elle est en train de cuisiner des feuilles de vigne. Ce plat libanais au Brésil, elle parle en portugais, elle est au Brésil en train de faire des feuilles de vigne qui lui ont été transmises depuis je sais pas combien de générations. Et elle dit à son petit-fils qu'elle préfère les garçons. Donc la transmission pure et dure de la culture patriarcale. Alors même que c'est une femme qui a eu 3 filles, ça je pense qu'on le sait pas dans le film. Mais donc je trouve qu'il y a des choses qui se télescopent de manière très étonnante, quoi. Donc, dur à raconter en peu de temps, celle-là. Mais après, il y en a tout un tas. Il y en a un qui marche très bien, ou une situation qui revient souvent, ou qu'en tout cas que les gens retiennent, c'est aussi le film de Frankie Valla qui s'appelle Kneidler, où sa grand-mère, qui au début du film a les bras comme ça, les manches retroussées, elle épluche des carottes, mais elle les épluche au couteau, de manière assez grossière. Et donc au tout début, je pense qu'en tant que spectateur, on se dit, mais pourquoi elle n'utilise pas un économe? C'est quand même bizarre cette façon d'éplucher les carottes. Et en fait, 30 secondes après, et vraiment presque en se bidonnant, elle dit qu'en fait, elle a appris à éplucher les légumes dans les camps de concentration. Et du coup, en fait, en tant que spectateur, on redescend genre de 1000 étages d'un coup. On se dit, ah merde, c'est peut-être pas assez... Enfin, on passe par beaucoup de sentiments très rapidement dans cette minute du film. Et en fait, elle est tellement hilare quand elle en parle qu'on revient à un truc de légèreté, alors même que pendant l'espace d'un instant, on prend en pleine gueule toute l'histoire de cette femme, quoi. Ça marche aussi pas mal dans les, ouais, dans les moments un peu magiques, okay, suspendus de...
Oui, il y en a beaucoup des moments magiques.
Mais il y en a
magiques.
Pas mal,
oui. Il y en a beaucoup. Ouais. Demain, votre rêve pour Grandmas Project?
J'aimerais bien faire plus de films, parce que même si je me suis éclaté à faire cette première saison, j'aimerais beaucoup qu'on ait des films d'autres coins du monde, en fait, encore. Parce que malgré tout, en 12 épisodes ou 13 épisodes, on n'a pas pu explorer tous les recoins de la Terre. Donc j'aimerais qu'on arrive à faire quelque chose qui couvre beaucoup plus la surface du globe. Et en fait, il y a une question qui m'est souvent posée sur les grands-pères. Pourquoi pas les grands-pères, etc. Et j'explique que pour faire une exception à la règle, il faut que la règle soit bien posée. Et du coup, j'aimerais continuer à bien poser la règle. Donc j'aimerais bien faire encore, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de films. Et peut-être alors faire des petits pas de côté en faisant des films sur des grands-pères ou des... Voilà, de partir des recettes comme vecteur d'histoire et d'identité. Et d'aller chercher un peu au-delà des grands-mères, quoi. De sortir de ce cadre-là. Et après, bien sûr, là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était de faire en sorte de trouver une façon, en fait, que le grand public puisse participer de manière simple. Mais si on peut encore plus encourager les gens à passer ces moments-là avec leurs grands-parents, parce que là, pour le coup, il ne s'agit plus que de grands-mères, quoi, mais juste de se tourner vers nos anciens, quoi. Et de noter leur histoire, noter leurs recettes et tout, je serais très content si on arrive à faire un peu plus ça.
Le goût du monde se refaire. Merci beaucoup, Jonas Pariente, de nous avoir reçus ici chez vous. Merci pour la molloreia. On mettra bien sûr la recette sur la page du goût du monde, d'autant que j'ai appris qu'on utilisait cette plante au Mali aussi et en Mauritanie. Merci d'avoir imaginé ce précieux projet que nous aimons beaucoup, qui est Grandmas Project. De bonnes nouvelles, vous pouvez participer, vous l'avez compris, et ou soutenir financièrement ce projet, un peu des deux, c'est vous qui voyez. L'adresse mail, c'est grandmasproject.org. Nous mettrons en ligne sur les réseaux sociaux et la page du goût du monde la vidéo de la grand-mère de Clara et la vidéo de votre grand-mère, et oui, votre grand-mère en train de cuisiner un mafé, un poulet yassa ou des beignets, des nems, un couscous, ce que vous voulez. On a hâte en tout cas de découvrir tout ça. Merci à Ludivine Amado, Cécile Bonici qui ont réalisé et mis en nom de ce goût du monde. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, croquez la vie.